Chapitre 22. Zora. Les animaux à sang froid sont les seuls venimeux. Arthur Schopenhauer. 1. 17 ans plus tôt, printemps 1999. Je m'appelle Tad Copland, j'ai 39 ans. Je suis professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'Université de Pennsylvanie. En ce samedi matin du printemps 1999, je reviens d'une partie de pêche, mais comme souvent, ce n'était qu'un prétexte pour passer quelques heures tranquilles au milieu de la nature. Tandis que j'amarre ma barque au ponton de bois qui s'avance sur les eaux frémissantes du lac, Argos, mon labrador, se précipite vers moi et me tourne autour en jappant et en remuant la queue. « Allez, viens mon chien !» Il me dépasse et fonce en direction d'un grand chalet de construction moderne, alliage harmonieux de mélèzes, de pierres et de verre, mon refuge de chaque week-end. Une fois à la maison, je me prépare un café en écoutant à la radio le saxophone de Lester Young. Puis je m'installe sur la terrasse en rondin et savoure une cigarette en parcourant les journaux et en corrigeant quelques copies. Sur mon téléphone, un message de ma femme Caroline, retenue à Philadelphie et qui doit venir me rejoindre en milieu de journée. « Je compte sur toi pour me préparer tes pâtes au pesto. Des bises, C. » Un bruit de moteur me fait lever la tête. Je chausse mes lunettes de soleil et plisse les yeux. Même de loin, je reconnais immédiatement cette silhouette menue à la démarche vive. Zora Zorkin. Comment l'oublier? Elle a été mon élève il y a 4 ou 5 ans, et ce n'était pas n'importe quel élève. C'était même de loin la meilleure étudiante de toute ma carrière d'enseignant. Un esprit vif, implacable. Une capacité hors du commun à développer des raisonnements intelligents sur tous les sujets. Une culture phénoménale sur la politique et l'histoire des États-Unis. Une vraie patriote qui défendait pied à pied des positions que je partageais et d'autres sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Un esprit brillant donc, mais rien d'autre. Pas d'humour, peu d'empathie et, à ma connaissance, ni copain ni copine. Je me souviens que j'éprouvais toujours un vrai plaisir à discuter avec elle, ce qui n'était pas le cas de tous mes collègues. Beaucoup d'enseignants étaient mal à l'aise avec Zora. La faute à son intelligence froide, qui avait parfois quelque chose de flippant. La faute à son regard, souvent absent lorsqu'elle était perdue dans ses réflexions, et qui d'un seul coup pouvait s'allumer avant de vous planter une saillie affûtée comme une banderille. Bonjour, professeur Copland. Elle est debout devant moi, malfagotée, flottant dans un jean usé et un pull informe et pelucheux, tenant sur son épaule la lanière d'un sac à dos qu'elle doit avoir depuis le lycée. Salut, Zora. Qu'est-ce qui me vaut ta visite ? Nous échangeons quelques banalités, puis elle me raconte ses débuts dans la vie professionnelle. J'ai entendu parler de son parcours. Je sais que ces dernières années, après la fac, elle a fait ses armes en travaillant sur plusieurs campagnes électorales locales, obtenant des résultats plutôt flatteurs avec des candidats qui n'avaient pourtant que peu d'envergure, se forgeant une petite réputation de conseillère politique qu'il est préférable d'avoir avec soi que contre soi. Je pense que vous valez mieux que ça, dis-je en lui servant une tasse de café. Si vous voulez faire de grandes choses, il faut que vous trouviez un candidat à la mesure de votre intelligence. Justement, répondit-elle. Je crois que j'en ai trouvé un. Je la regarde souffler sur son café. Un teint de lune éclaire son visage, dont toute beauté est gommée par la frange épaisse et mal coupée qui lui retombe sur les yeux. Vraiment, dis-je. Je le connais. C'est vous, Tad. J'ai du mal à comprendre. Elle ouvre la fermeture éclair de son sac pour en sortir des projets d'affiches, un slogan, des pages imprimées et reliées décrivant une stratégie électorale. Alors qu'elle déballe son matériel sur le vieil établi en bois qui me sert de table de jardin, je l'arrête avant qu'elle n'aille plus loin. « Attends, Zora, je n'ai jamais voulu faire de politique. » « Vous en faites déjà ? Votre association, votre mandat de conseiller municipal ?»« Je veux dire, je n'ai pas de plus hautes ambitions. » Elle me regarde avec ses grands yeux serpentins. « Je pense que si. » « À quel poste voudrais-tu que je me présente ?»« Pour commencer, à la mairie de Philadelphie, ensuite au poste de gouverneur de Pennsylvanie. » Je hausse les épaules. « Tu racontes n'importe quoi, Zora. Philadelphie n'a jamais élu un républicain à sa tête. »« Si, » répondit-elle du tac au tac. « Bernard Samuel, en 1941. »« Bon, peut-être, mais c'était il y a 60 ans, ça ne serait plus possible aujourd'hui. » Elle ne trouve pas mon argument convaincant. « Vous n'êtes pas un vrai républicain, Tad. et votre femme descend d'une vieille famille démocrate et très respectée. De toute façon, Garland sera réélu dans un fauteuil. Garland ne se représentera pas, assure-t-elle.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Je le sais, c'est tout. Mais ne me demandez pas comment. 2.
En admettant que je veuille faire de la politique, pourquoi je parierais sur toi, Zora ?
Vous n'y êtes pas, Tad. C'est moi qui parie sur vous.
Nous parlions depuis près d'une heure. Malgré moi, je m'étais pris au jeu. Je savais très bien que je mettais les pieds sur un territoire dangereux. Je savais très bien qu'il ne fallait pas que je m'embarque dans une aventure que je pressentais sans retour. Mais à cette époque, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour de ma vie. Je traversais une période de doute. Je n'étais plus sûr de rien, ni de mon mariage, ni de ma vocation d'enseignant, ni du sens que je voulais donner à ma vie. Et cette fille savait trouver les mots. Elle voyait loin, elle voyait juste. Dans sa bouche, rien ne semblait impossible. Les lendemains étaient excitants et grandioses. Au fond, n'était-ce pas toujours cela que j'avais attendu ? La rencontre avec une personne extraordinaire qui allait changer ma vie, me sortir de mon existence confortable, mais étriquée. J'ai bien essayé de résister à la tentation, mais Zora rejetait toutes mes objections. Je ne crois pas en Dieu, tu le sais. Et les électeurs américains n'aiment pas les candidats athées.
Vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits.
J'ai déjà fumé de l'herbe, comme tout le monde, Tad. Il m'arrive encore d'en fumer.
Dans ce cas, arrêtez immédiatement. Et si on vous pose la question, vous prétendrez que vous n'avaliez pas la fumée.
Je n'ai pas de fortune personnelle pour financer une campagne.
C'est mon job de trouver de l'argent, pas le vôtre.
Je suis en traitement médical depuis plusieurs années.
Vous souffrez de quoi ?
De légers troubles bipolaires.
Winston Churchill était bipolaire, le général Patton était bipolaire, tout comme Calvin Coolidge, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Richard Nixon.
Elle balayait les arguments un par un. À présent, je ne voulais plus qu'elle s'en aille. Je voulais qu'elle continue à me parler et à arroser cette graine d'espoir qu'elle avait plantée en moi. Je voulais qu'elle continue à me dire que j'allais devenir le maire de la 5e plus grande ville du pays. Et je voulais encore un peu faire semblant de la croire.
3.
Alors qu'elle m'avait presque convaincu, Zora changea soudain sa petite musique. C'était quelque chose que je devais apprendre par la suite. Personne ne pouvait cacher bien longtemps ses secrets à Zora Zorkin.
Maintenant que vous en avez terminé avec vos fausses excuses, on pourrait peut-être aborder les vrais problèmes, vous ne pensez pas ?
Je feignis de ne pas comprendre.
Qu'est-ce que tu veux dire ? La politique. Vous y avez forcément déjà pensé, Tad. Vous êtes fait pour ça. Il suffit d'assister à n'importe lequel de vos cours pour en être certaine. Vos interventions nous subjuguaient. Vos diatribes faisaient mouche. Tout le monde buvait vos paroles.
Je me souviens encore de vos indignations sur le nombre trop élevé de travailleurs pauvres ou d'Américains ne disposant pas d'assurance maladie. J'ai toujours en mémoire vos discours sur la disparition du rêve américain et sur les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre pour le restaurer.
Vous avez ça dans le sang.
J'ouvris la bouche pour la contredire, mais je ne trouvais pas les mots.
Quelque chose de précis vous a fait renoncer à la politique. Reconnaissez-le, Tad. Quelque chose que vous considérez comme un handicap insurmontable.
Tu fais de la psychologie à deux sous, là. Zora me défia du regard.
Quel cadavre planquez-vous dans votre placard, professeur Copeland ?
Appuyé contre la rambarde, je restai silencieux. Mon regard se perdit au loin, du côté de la surface du lac qui étincelait de 1000 feux. Zora remballa ses affaires dans son sac.
« Je vous donne 1 minute, Tad, » reprit-elle en regardant sa montre. « Pas 1 seconde de plus. Si vous ne me faites pas confiance, il vaut mieux arrêter tout de suite. »
Elle prit une cigarette dans le paquet que j'avais laissé sur la table et fixa les yeux sur moi. Pour la première fois, je sentis le danger que représentait vraiment cette fille. Je n'aimais pas ses manières. Je n'aimais pas être mise au pied du mur. Pendant quelques secondes encore, j'eus cette liberté de dire non, la plus grande des libertés. Mais à quoi sert la liberté si elle ne vous permet pas de vivre vos rêves ?
D'accord, dis-je en m'asseyant à côté d'elle.
Tu as raison, il y a bien un épisode de ma vie qui pourrait me priver d'un destin politique.
Je vous écoute.
Ne t'attends pas à des révélations fracassantes, c'est tristement banal. Il y a 10 années, pendant quelques mois, j'ai entretenu une liaison avec une femme.
Qui était-ce ?
Elle s'appelle Joyce Carlyle. C'était une bénévole puis une salariée de mon association Take Back Your Philadelphia.
Votre femme est au courant ?
Si Caroline était au courant, elle ne serait plus ma femme. Où habite cette Joyce Carlyle maintenant ?
À New York.
Mais ce n'est pas tout. Elle a eu une fille, Claire, qui a 8 ans aujourd'hui.
Une fille dont vous êtes le père ?
Très probablement, oui.
Joyce a essayé de vous faire chanter ?
Non, c'est une femme bien. Libre, mais respectable. Sa mère travaille au service juridique de la ville.
Vous êtes resté en contact ?
Non. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis des années, mais je n'ai pas cherché à en avoir.
La petite Claire, elle sait que vous êtes son père ?
Aucune idée. Zora soupira et arbora ce drôle d'air absent qu'elle avait lorsqu'elle réfléchissait. Moi, j'attendais son verdict en silence, comme un écolier qui vient de se faire prendre les doigts dans le pot de confiture. C'est à ce moment précis que j'aurais dû renoncer. Mais Zora prononça exactement les mots que j'avais envie d'entendre.
C'est embêtant, c'est vrai. Tout ça pourrait ressurgir n'importe quand, mais c'est un risque à prendre. L'essentiel est de garder la situation sous contrôle. On sait que cet épisode de votre vie a existé et qu'il peut potentiellement devenir un problème. Peut-être que cela ne se produira jamais, mais si ça arrive un jour, si ça devient un problème, nous le traiterons le moment venu.
4. Si ça devient un problème, nous le traiterons le moment venu. La phrase était prémonitoire, et je le savais. Du moins, je le redoutais. Mais je dois être honnête, même en sachant le drame qui est advenu par la suite, je mentirais si je disais que je regrette mon choix. Et j'irais même plus loin. Je mentirais en prétendant que je n'ai pas la nostalgie de ce matin-là. Le matin où tout a commencé. Le matin où cette étrange fille a débarqué chez moi avec ses fringues improbables et son sac à dos fatigué. Le matin où elle a étalé ses affaires sur mon vieil établi et où elle m'a dit « Vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de l'histoire politique des États-Unis, Tad ? Un chapitre dont vous seriez le héros ?»